Chers amis auto-entrepreneurs, je suis très heureux que ce régime connaisse un succès grandissant. Il est le signe qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de Françaises et de Français qui veulent convertir leurs idées en talent, en revenus, en activité. J'en suis très heureux.
Ainsi parlait Hervé Novelli, le père du régime de l'auto-entrepreneur. Devenir plus facilement son propre patron, en 2009, c'était une promesse, au moins d'avancer d'une case, au mieux de faire un bond en avant. Bon, 10 ans plus tard, ou presque, bilan mitigé et même carrément bousculé par l'ubérisation. On peut être chauffeur et auto-entrepreneur, livreur et auto-entrepreneur. Et puisque nous préférons la nouveauté des temps modernes, nous, on n'arrête pas les cossés. Juicer et auto-entrepreneur. Juicer, celui qui met le jus. En français, ce sont les rechargeurs de trottinettes électriques. Vous savez, celles qui sont en libre-service sur les trottoirs à Paris, à Lyon. Ça se passe la nuit avec une appli, il faut repérer la trottinette, courir pour passer le premier, l'emporter, la charger, la redistribuer à l'aube. C'est comme une chasse au trésor, dit un grand enfant. Non, c'est la guerre des auto-entrepreneurs. 6 euros gagnés par trottinette rechargée. Voilà, c'est ça le modèle économique des deux entreprises américaines qui dominent le marché. Il repose aussi sur nos braves auto-entrepreneurs. Et chers amis, comme rien n'est résolu pour leur protection sociale, comment en être tout à fait heureux ?
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue samedi 10 novembre, c'est le Magéco réalisé par Coyen Guyen, Valentin Pérez est attaché de production et Pierre Lemierre nous accompagne à la technique ce matin. L'appel des gilets jaunes, nous sommes une semaine avant cette fameuse mobilisation, le prix des carburants, la fiscalité verte, ça se discute. Évidemment, vous en avez discuté toute la semaine, nous aussi. Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques, bonjour Christian.
Bonjour, qui vit en transport en commun.
Et Emmanuel Lechypre qui d'habitude covoiture Christian Chavagneux, pas ce matin.
Pas ce matin et donc j'étais tout seul dans ma voiture.
Et vous avez bien pollué.
Ah, je croyais que vous alliez me dire que vous avez bien raison.
Un diesel Emmanuel.
Un diesel bien sûr. Ouais. À l'époque on m'incitait à acheter du diesel.
Ça démarre. Diesel. Alors voilà, c'est parti. Non, pas tout de suite. Nous nous retrouvons dans une poignée de secondes. Le temps de vous donner le programme d'On n'arrête pas l'écho. L'intelligence artificielle qui arrive dans le monde du travail, première conséquence visible, elle change l'organisation des entreprises. Vous entendrez le reportage de Louis-Valentin Lopez. Et puis d'autres questions sur le travail, sur les recrutements, sur la négociation, sur l'assurance chômage. Ce sera avec l'invité du Magéco, le président de Manpower France, Alain Roumillac. Interview vers 9h45, juste avant le moment Foulon. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Ma vie au boulot avec cette question laissée dans la boîte aux lettres dont n'arrête pas l'écho par Françoise qui veut savoir.
Oui, alors c'est une question sur le 13e mois avec le prélèvement à la source qui s'annonce. Peut-on demander à son employeur de mensualiser ce 13e mois ?
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de Françoise,
Sandrine ? De plus en plus.
De plus en plus, très bien. La réponse, ça sera juste avant 10h, mais tout de suite le débat. Comme je vous disais, je sais que vous l'avez déjà eu à la maison, au bureau, et bien ce matin, nous vous proposons de l'avoir tous ensemble dans On n'arrête pas l'écho, c'est le prix du plein.
Novembre 2018.
J'ai 10 mots à dire à Monsieur Macron.
Jacqueline Moureau.
La hausse du prix du carburant.
Internaute.
Là, on atteint des sommets. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon des Français ?
Peuple de France, vous êtes témoins. Nos économies vont beaucoup moins bien.
Bon, il faut arrêter d'être des vaches à lait, quoi.
Y a pas que l'essence qui a augmenté.
Ça concerne vraiment tout le monde. Et ce mouvement prend de l'ampleur parce que justement, c'est le peuple qui veut se faire entendre.
Si tu comptes y participer, sur le tableau, mets ton gilet.
Résumons le 17, on ne conduira pas.
Mais le carburant, c'est pas Bibi.
Emmanuel Macron.
Faut regarder aussi d'où elle vient, l'augmentation. À 80%, elle vient des cours mondiaux. Ensuite, oui, il y a des impôts, il y en a toujours eu sur le carburant. Ces impôts, c'est aussi ceux qui permettent de financer les énergies renouvelables, les nouvelles formes de mobilité, tout ce qui va changer.
Vous écrasez les gens tout de suite.
Non, on n'écrase personne.
Les consommateurs sont d'accord avec la transition écologique, donc il faut qu'ils payent.
Michel-Édouard Leclerc.
La transition énergétique, donc ils sont prêts à payer.
Directeur général de l'enseigne Leclerc.
La transition alimentaire, donc il faut qu'ils payent. La transition santé, le tabac, il faut qu'ils payent. 30-35 milliards sur la transition énergétique, ils n'ont toujours pas tranché sur le nucléaire. Ils n'ont pas dit OK pour les champs solaires, donc ça part où finalement ce pognon ?
Il y a une pure arnaque écologique.
Benoît Hamon.
4 milliards de taxes supplémentaires pour n'en affecter au maximum qu'un milliard.
Fondateur du mouvement Génération.
Ah, des mesures de transition écologique.
Commencer quelque
non,
part,
pas,
non,
bah non. Bah alors Alors commençons. Mettons en place une TVA réduite sur les transports en commun et transports collectifs. Mettons en place une TVA réduite sur l'achat de véhicules propres. Ne voyez-vous pas que les endroits où on n'a pas d'autre choix que de prendre la voiture sont les endroits où on est en train de fermer des gares et des lignes de train.
C'est vraiment pas la fête, les sens sont pas à grands pas. Et celui qui conduit, c'est celui qui mange pas.
Le prix du pétrole,
Bruno Le Maire,
ne baissera pas dans les mois qui viennent.
Ministre de l'économie.
L'État va faire un effort, notamment sur le chèque énergie et sur la prime à la conversion.
Trop c'est trop.
Laurent Wauquiez.
Voilà un président qui a assommé les Français avec des hausses massives de taxes.
Président LR.
Et qui ensuite nous dit, ah mais on va mettre en place des petites subventions pour corriger les hausses de taxes massives que j'ai décidées. Mais enfin, on est en pleine absurdie.
Si tu comptes y participer, sur le tableau mets ton gilet.
J'ai entendu le président de la République dire qu'il entendait la colère.
Alain Juppé.
La colère, la colère, la colère.
Maire de Bordeaux.
La colère, ça suffit.
Alain Juppé, la colère, ça suffit. Alors, si on veut avoir des arguments économiques sur ce débat, au fond, qui a raison ? Nous vous proposons ce matin de prendre les deux grands arguments de cette colère et de les décortiquer pour savoir de quoi exactement il faut s'indigner. Emmanuel Le Chypre, argument numéro 1, le carburant, là, ça suffit, c'est trop cher.
Bah, c'est trop cher, ça dépend de ce que vous appelez trop cher. La question c'est, on l'a entendu dans le ZAP, c'était ça n'a jamais été aussi cher. Bah, ça malheureusement, ça, en tout cas ça n'est pas vrai. Hein, si vous prenez, ne serait-ce que sur un horizon assez court, alors en euros constants quand même pour enlever l'effet de l'inflation, en 2013 on avait un prix du litre d'essence qui était 15% supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Et puis si vous revenez sur des plus longues périodes, là, l'outil qui est le plus pertinent, c'est sans doute de regarder ce que représente comme effort financier le fait de faire le plein. Et là, il faut comparer plutôt avec l'évolution des revenus. Et c'est vrai que si vous prenez avec 1970, par exemple, c'est intéressant 1970 parce qu'on est avant, le choc pétrolier. Oui. Et ben, même en 1970, l'essence, elle était plus chère qu'aujourd'hui si vous comparez au SMIC. C'est-à-dire que pour le même SMIC, et ben, à l'époque, vous achetiez deux fois moins d'essence, sachant que votre voiture consommait en plus déjà deux fois plus. Donc, votre pouvoir d'achat en essence, aujourd'hui, il est plus élevé. Vous pouvez même ajouter le prix de la voiture. Hein. La voiture était aussi plus chère. En prenant une R5 TS en 1980,
ça valait... Sacrée référence.
Ah, ben, j'imagine que Christian a fait le kéké avec sa R5 TS, qu'il a dû payer à peu près 15 SMIC, alors que la Clio équivalente, aujourd'hui, c'est 11 SMIC. Mais où est le problème ? Le problème, c'est que, en contrepartie, on a trois fois plus de voitures en circulation et qu'on roule trois fois plus. Et donc, le budget automobile, finalement, il a pas baissé. Et c'est ça qui est, piégeux aujourd'hui. C'est 11% du revenu, à peu près.
Christian, pour faire le point, d'où vient le prix du litre ? Vous nous rappelez le mix ?
En gros, hein, parce que évidemment essence, diesel, type différent d'essence, puis ça évolue, mais en gros, à la louche, 60% du prix du litre, c'est les taxes. 32% c'est le pétrole, le prix du baril et le raffinage, parce que le pétrole, il faut bien le transformer. Et puis 8% c'est la distribution, hein, les gens qui nous apportent l'essence. Et bien sûr, j'inclus là-dedans les variations du taux de change de l'euro par rapport au dollar, parce que le pétrole, on l'achète en dollars. Si le prix du baril monte, mais que l'euro s'apprécie, ça annule. Mais si en même temps, l'euro se déprécie, ça rajoute encore du coût pour importer du pétrole en France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les hausses, sur les dernières hausses, ce qu'a dit le président de la République est à peu près juste, c'est-à-dire, moi j'ai un quart des hausses actuelles sont dues aux taxes, et les trois quarts sont dues à l'augmentation des prix du pétrole et à la dépréciation de l'euro. Le prix hors taxe du litre de gazole et d'essence, c'était 40 centimes d'euros en 2007, c'est 60 centimes d'euros aujourd'hui.
La géopolitique, est-ce que c'est pour ça, un mot quand même sur pourquoi le pétrole augmente, est-ce que c'est à cause des Américains, des tensions sur l'Iran ?
Non, alors la hausse des prix du pétrole a commencé bien avant que Trump commence à nous dire on va sanctionner l'Iran, on va les empêcher d'exporter leur pétrole. L'OPEP et la Russie ont réduit l'offre dès la fin de 2016. Donc là, ça a contribué.
Les principaux producteurs,
Oui. Le Venezuela, qui est aussi un gros producteur, qui est en pleine désorganisation en deux ans, moins 40% de production et de l'offre vénézuélienne. L'Iran, c'est un petit choc en plus, c'est 1,5% d'offres de pétrole en moins. En 79, au moment où l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir et crée un choc pétrolier, au moment de la guerre Iran-Irak des années 80, le choc sur l'offre, c'était 9%. Au moment de la guerre du Golfe au début des années 90, le choc, c'était 6% d'offres en moins. 6, 9, aujourd'hui, on est à 1,5. Donc, c'est un petit choc supplémentaire.
Emmanuel ?
Alors il y a effectivement dans la détermination des prix du pétrole le facteur géopolitique, hein, on met là-dedans la stratégie de l'OPEP, l'Iran, le Venezuela, etc. Mais il faut rappeler que fondamentalement, ce qui fait les grandes fluctuations du pétrole, c'est l'offre, c'est le cycle de l'investissement dans les infrastructures pétrolières. Et qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières années, 2015-2016, c'est que les investissements dans les infrastructures pétrolières, avec la baisse des prix qui s'est amorcée en 2015, eh ben l'investissement il s'est effondré. Regardez les difficultés qu'ont eu des entreprises comme Vallourec, par exemple, qui font des tuyaux pour les personnes. Quand vous faites moins 15, moins 20% d'investissement par an, eh ben, qu'est-ce qui se passe?
Ça veut dire que vous cherchez moins quand vous dites investissement concrètement, par exemple.
C'est-à-dire qu'en gros, quand les prix, quand les cours du pétrole s'effondrent, eh ben, essayez de trouver des nouveaux gisements, forer, créer des plateformes, etc., bah, c'est pas rentable. Donc, on arrête tous les investissements. Et puis, jusqu'au jour où on s'aperçoit, bah, qu'on n'a plus assez de pétrole, les prix remontent et c'est là que l'investissement repart. Donc là, on est dans un cycle où la hausse des prix s'explique en partie par le sous-investissement passé. Quand on dit hausse des prix du pétrole, attention, il faut rappeler que le prix du pétrole, il a quand même baissé de 20% depuis un mois. Donc on est vraiment sur des fluctuations qui sont importantes et rapides.
Et les automobilistes disent, on ne voit pas la pompe, ça. Ils sont en train de se dire, nous on fait des pleins à plus d'un 40. Pourtant le prix du pétrole est en baisse, qu'est-ce qui se passe?
Il faut un petit peu de temps quand même entre le moment où on extrait le pétrole moins cher et le moment où il arrive, parce qu'il faut le transporter, il faut le raffiner. Une fois qu'il est raffiné, il faut l'amener à la pompe. Donc il y a des contrats, des durées de contrats, il faut un petit peu de temps. Mais il y a aussi, il faut le dire, la distribution qui en profite pour augmenter ses marges.
Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec Christian là-dessus, parce que ce qu'on voit, c'est quand même que on est quand même dans un univers qui est très concurrentiel. Regardez toutes les annonces qui ont été faites par toutes les grandes chaînes d'hypermarchés pour dire on va vendre à prix coûtant, etc. Donc je pense que ce qui est vrai, c'est que
le service de marge.
Alors ce qui est vrai, c'est qu'il y a un lissage quand même globalement, c'est-à-dire que la hausse n'est jamais répercutée intégralement très vite, etc.
Et la baisse encore moins vite.
Et la baisse, elle vient, c'est-à-dire qu'en gros Christian a raison, c'est-à-dire qu'il faut d'abord écouler les stocks de pétrole qu'on a acheté cher, les acheminer. Oui, ça prend un peu de temps, il faut 10-15 jours. Là, si on reste sur une baisse de 20% et que les cours se stabilisent, ça veut dire qu'on peut espérer peut-être une baisse de 7-8 centimes à la pompe dans les 15 prochains jours.
Ah, déjà, c'est un soulagement. Quand Bruno Le Maire nous dit, le prix du pétrole, quand même, ne nous trompons pas, ça restera cher.
Non, mais attendez, vous avez des experts qui vous disent ça va monter, d'autres qui disent ça va descendre. Bruno Le Maire, il n'est pas meilleur que les autres pour savoir comment on va évaluer les prix du pétrole. Rappelez-vous, il y a un an, il n'y avait qu'un un expert, moi, dont je me rappelle, qui nous disait toujours, va y avoir du pétrole, ouais, etc. C'était Patrick Artus, qui était obsédé par cette idée que le pétrole allait augmenter. Personne ne le croyait à l'époque. Bon, c'est très compliqué de savoir comment ça va évoluer.
Il va y avoir un tout petit peu plus d'offres, la croissance mondiale ralentit, un peu moins de demandes. Normalement, ça devrait pousser plutôt les prix du pétrole vers la baisse.
Donc, on a expliqué le fonctionnement, le prix, le carburant trop cher, je crois qu'on a décortiqué. De quoi, Christian? Est-ce qu'il faut s'indigner du niveau du prix du pétrole aujourd'hui?
Qui doit s'indigner? Votre question, en fait, c'est l'essence est trop chère, mais elle est trop chère pour qui? Et là, vous avez une étude, une enquête INSEE sur la consommation d'essence par niveau de revenu. C'est ça qui nous intéresse. Alors, c'est une enquête qui date de 2008. En même temps, les comportements changent pas non plus au jour le jour. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris les niveaux de revenus de 2008 et je les ai mis au niveau de 2018. Et en gros, vous avez deux extrêmes. Les gens qui gagnent qui ont des revenus inférieurs à 11 000 euros et ceux à l'autre extrême qui ont des revenus supérieurs à 54 000 euros. Et là, qui va au travail en voiture? Dans les plus pauvres, 38%. Dans les plus riches, 70%. Combien ils font de kilomètres en une année? Pour les plus pauvres, 7 à 8 000. Pour les plus riches, plus de 20 000. Donc, vous avez envie de dire, ceux qui vont le plus payer l'augmentation, ceux qui devraient les manifester, c'est les plus riches. Non, pas tout à fait. Pourquoi? Parce que pour les plus pauvres, la moyenne d'âge de leur voiture, c'est 12 ans. Pour les plus riches, c'est 6 ans.
Donc, ça
plus économes,
moins.
Qui consomment moins. La part du budget de l'essence, ça c'est l'enquête INSEE, le budget des ménages qui date de 2011. La part du budget dans l'essence, pour les plus pauvres, en gros, 8%. Pour les plus riches, 4%. Attention, quand on dit le prix du pétrole, le prix du gaz augmente, il y a la voiture, mais il y a le chauffage aussi. Et si vous prenez voiture, tout compris, le parking, le péage, l'essence, etc., tous les frais de voiture, les frais d'entretien d'une voiture, plus les frais de chauffage, alors dans le budget des plus pauvres, c'est 11,5% du budget. Pour les plus riches, c'est 9,5%. Donc vous voyez que on est quand même sur des gens qui vont se plaindre parce que ils peuvent pas faire autrement que de subir cette hausse.
Mais c'est vrai que c'est intéressant de s'interroger sur les raisons de la colère, parce que on l'a dit, les prix de l'essence, ils ont déjà été été plus élevé. Et donc, pourquoi cette fois-ci? Moi, je vois deux explications. La première, c'est quand même que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase fiscal. C'est-à-dire qu'il y a une... Les Français, ils en ont ras-le-bol de la lessiveuse fiscale, de voir les annonces d'impôts nouveaux tous les jours, les baisses, etc. Ils savent plus. Donc là, ils en ont ras-le-bol. Et puis, il y a un autre phénomène aussi dans le fonctionnement, dans le budget des ménages. C'est la montée inexorable depuis 30 ans de ce qu'on appelle les dépenses contraintes. C'est-à-dire toutes ces dépenses que vous faites tous les mois sans avoir aucune marge dessus. C'est le loyer, c'est les assurances, et puis de plus en plus, c'est tous les abonnements auxquels vous souscrivez, c'est-à-dire pour votre téléphone, et puis toutes les dépenses qu'on fait maintenant par abonnement. Ça représente aujourd'hui 30% des dépenses des ménages. Et donc, c'est sûr que avant, il y a 25 ans, c'était 10-12%. Donc, c'est sûr que quand vous avez 30% de votre budget qui est contraint tous les mois, dès que vous avez des petits dépassements, même de quelques centimes sur le prix du litre d'essence, etc., bah, tout de suite, ça vous met effectivement en difficulté.
Et on a des assignés à résidence. On peut dire ça comme ça, Christian Chavagnu?
Oui, on a des assignés à résidence. En même temps, si vous êtes uniquement sur ce genre d'argument, vous voyez bien que c'est les plus riches qui sont le plus assignés à résidence, parce que ceux qui doivent utiliser plus leur voiture et qui doivent plus se déplacer.
Mais vous venez de nous expliquer que ce sont eux qui peuvent le plus faire.
Exactement, ce sont ceux qui peuvent le faire. Pour en rester sur la question vraiment fiscale et continuer sur ce que vient de dire Emmanuel, Alexis Spire, qui est un sociologue, qui vient de sortir un bouquin sur, entre les classes moyennes, les plus riches et les plus pauvres, quels sont ceux qui contestent le plus l'impôt, quels sont ceux qui l'acceptent le plus. En fait, il s'aperçoit que ce sont les classes populaires qui contestent le plus l'impôt. Pourquoi? Parce que les plus pauvres, ce sont ceux qui payent ces taxes qui sont, comme on dit, proportionnelles. C'est-à-dire, ça dépend pas de votre niveau de revenu. L'impôt sur le revenu, normalement, plus vous gagnez, plus proportionnellement vous devez payer. Il est un peu progressif. Pas assez à mon sens, mais il est un peu progressif. Toutes ces taxes, je sais qu'Emmanuel va pas être d'accord, mais la TVA, la CSG, les taxes sur le carburant, c'est proportionnel. Donc, c'est les plus pauvres qui payent le plus ce genre de taxes. En plus, les classes moyennes et les plus riches, ils savent comment utiliser les crédits d'impôt, les dons, etc., pour diminuer leurs impôts. Les classes populaires, moins. Ils ont moins cette capacité de jouer. Ils sont plus, du fait, enclins à contester les taxes. Et enfin, il y a une redistribution invisible, nous dit Alexis Spire. Lorsque vous êtes prélevé, vous voyez tout de suite que vous avez moins de revenus. Quand vous touchez des allocations chômage, quand vous êtes remboursé par la Sécu, quand vous ne voyez pas qu'il y a cet état souterrain, dit Alexis Spire, qui redistribue. Oui, on prélève, mais on redonne aussi.
Et puis, il y a une asymétrie dans la perception. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes beaucoup plus. Il y a eu des études aussi par les économistes spécialisés dans l'économie comportementale, qui vous disent que vous êtes beaucoup plus sensible à une baisse de quelques pourcents qu'à un gain deux à trois fois plus élevé que la perte.
Donc, si je vous suis bien, il ne faut pas tant s'indigner du prix du pétrole aujourd'hui que de qui il subit en premier lieu, le profil de ceux qui sont le plus touchés.
Oui, parce que il y a quand même cette idée de l'automobiliste vache à lait.
Voilà, ça. Et c'est le deuxième argument.
Il y a un vrai effet anti-redistributif. Ouais. On l'a vu avec les départs des budgets.
Oui, mais l'effet vache à lait, il faut...
L'argument, les automobilistes sont les vaches à lait de ce gouvernement.
Effectivement, si vous regardez les séquences sur, ne serait-ce que la dernière année, l'automobiliste, c'est vrai qu'il en prend quand même plein la figure. Le carburant, on n'y revient pas. La limitation de vitesse à 80 euros, vous voyez, je suis obsédé par les euros, à 80 km/h, elle est quand même vécue comme une presque mesure vexatoire. Les PV de stationnement qui ont quand même considérablement augmenté depuis que finalement c'est décidé par les municipalités. Les péages, ils augmentent. Le contrôle technique, il est beaucoup plus rigoureux et il est beaucoup plus coûteux. Les cartes grises, elles ont augmenté jusqu'à 6%. Prenez les malus et les taxes sur les nouvelles voitures que vous achetez avec les nouvelles normes environnementales.
Alors, je crois qu'Emmanuel va les manifester.
Non, mais 17. Ce que je veux dire, c'est qu'on comprend que quand même l'automobiliste, il en prend, mais vraiment plein la figure, effectivement. Alors les seuls, du côté des bonnes nouvelles, vous avez le permis de conduire annoncé hier qui coûtera moins cher et la prime à la conversion, mais franchement c'est totalement hallucinant. C'est-à-dire
la prime
dit,
à la conversion jusqu'à 2000
viens,
euros.
Petit automobiliste, je vais t'aider à avoir ton permis, je vais t'aider à avoir une voiture, comme ça tu me paieras après encore plus de taxes. Non mais c'est un truc de dingue.
Alors attendez, justement au niveau des taxes, si on reste sur les chiffres, Christian Chavagneux,
au niveau européen en fait,
sur combien ça rapporte les taxes énergétiques?
Ah, ça rapporte en 2017 à peu près 30 milliards, 31, cette année à peu près 34 milliards et l'année prochaine 38 milliards budgétés, 45% qui va au budget général de l'État, un tiers qui va au budget des collectivités territoriales, 20% pour la transition écologique et le reste pour le financement des infrastructures.
Et c'est ça le problème.
Au total, ce que rapportent quand même les taxes sur les automobilistes en général, c'est presque 70 milliards d'euros.
Tout ce que vous venez de nous expliquer.
Plus tout le reste.
Alors moi, je retiens, parce qu'il nous reste... Je retiens, Christian, que vous venez de nous dire il y a 20% de tout ça qui va à la transition énergétique. Ouais. Est-ce que plus que le niveau des taxes, qui ne sont peut-être pas au top niveau en Europe, vous allez me le dire?
Ah oui, tout à fait. Si combien coûte un plein d'essence de 50 litres en France par rapport au revenu médian d'un Français et ou d'un Européen moyen. Nous, ça nous coûte 4%. Vous allez en Roumanie, c'est 25%. Alors, c'est vrai, au Luxembourg, vous avez 2%. Luxembourg, Autriche, Espagne sont en dessous. Grèce, Italie, Pays-Bas, ils sont au-dessus. Mais honnêtement, en proportion du revenu, on est vraiment très, très bas.
Sauf que c'est quand même en France que, ça a que les taxes ont le plus augmenté ces dernières années.
Et puis ça va continuer. Ce que le gouvernement dit et qui met en rage certains automobilistes, c'est d'entendre que ça va continuer pour la transition énergétique.
Et pourquoi on le fait exactement? C'est pour envoyer, comme disent les économistes, un signal prix, essayer de faire autre chose que d'utiliser votre voiture. Donc le fait que le prix monte normalement, ça veut dire que si vous utilisez vraiment moins votre voiture, la base fiscale sur laquelle vous appliquez ces taxes, elle va se réduire. Donc le fait de dire ça va pas à la transition écologique, la base va se réduire. Donc vous aurez de moins en moins de budget pour la transition écologique. Et rien ne nous dit que pour le reste du budget et le reste de l'État, on ne doit pas prendre de l'argent pour aller vers la transition écologique. Moi, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait que 20% du produit de cette taxe qui aille vers le budget spécifique de la transition écologique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les 20% des 30 milliards qui sont le budget écologique. Moi, j'espère que dans le reste du budget de l'État, le reste des recettes d'imposition, on va mettre ça sur la transition écologique parce qu'il nous en manque. Et par contre, bien évidemment, ce qu'il faut faire, c'est réduire notre dépendance au pétrole. C'est ça le vrai problème, c'est qu'on reste très très dépendant au pétrole. Aujourd'hui, 45% de notre consommation d'énergie, 60% de déficit commercial, et on marche sur la tête. On a 8 milliards et demi de niches fiscales en faveur des énergies fossiles, dont 3 milliards d'exotaxes sur le kérosène. On marche complètement sur la tête.
Emmanuel.
La réalité, c'est que la contradiction entre les contraintes du court terme et les exigences du long terme, aujourd'hui, elle est absolument pas résolue. Et vraiment, les annonces, je reviens sur les annonces d'Emmanuel Macron hier, qui sont emblématiques de ça. Oui, effectivement, à court terme, il y a un chômage de mobilité, il y a des jeunes qui sont au chômage parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer le permis pour s'acheter une voiture, etc. Mais en même temps, on voit bien que les contraintes du long terme, c'est de réduire la part de la voiture. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit, d'un côté, il faudra moins de place pour la voiture. De l'autre, on vous aide à acheter votre permis et une nouvelle voiture. Enfin, je veux dire, entre les deux, il y a vraiment une contradiction entre ce qu'il faut, ce qui est bien à court terme et ce qui est bien à long terme. Et dans les stratégies de transition mises en place, moi, je ne vois pas les chemins qui nous permettent de passer de l'un à l'autre.
Et ce qu'on ne voit pas, c'est, Christian, à la campagne. Voilà. En ville, il y a des transports en commun, on peut toujours les améliorer, les moderniser. Mais Christian, ce qu'on ne voit pas, c'est l'argent mis partout pour aider les gens qui sont à la campagne à ne plus servir de leur voiture.
J'ai déjà dit à ce micro, sur les 2,7 millions de personnes qui vivent dans un espace rural et qui font une navette pour aller travailler, les deux tiers couvrent une distance médiane de 3,5 km. Donc on peut développer des moyens alternatifs par rapport à la voiture, sauf que le gouvernement ne le fait pas. Il nous fait un plan vélo avec 50 millions d'euros qui sont très largement insuffisants. On est complètement derrière les autres pays européens. Le télétravail, il ne faudrait pas le développer. La gratuité des transports publics en zone urbaine et périurbaine.
C'est ce que je vous dis, il faut mettre de l'argent.
Aujourd'hui, il reste 10 à 15% à payer. Le reste, c'est déjà pas du budget public, donc ce serait peut-être facile de faire. Je ne veux pas dire que la gratuité des transports public, c'est vraiment la solution. Ça peut favoriser l'étalement, etc. Mais bref, il y a plein de choses à mettre sur la table. En fait, on s'aperçoit quoi ? Il faut un débat citoyen pour régler ces problèmes.
Plus qu'une manifestation du 17, c'est ça que j'entends tout bas dans votre bouche.
D'abord, c'est des populations qui sont plus si nombreuses. Et là où il faut travailler, c'est qu'on voit que les avantages fiscaux pour les catégories sociales différentes, on est très à l'aise pour les inventer. Les avantages fiscaux pour les différences géographiques entre les régions et les zones, ça, on n'est pas très bon là-dessus. Donc il faut sans doute aussi travailler là-dessus.
Sur les différences géographiques.
Oui, absolument.
L'économie comme elle se passe ailleurs, je vais vous emmener tout de suite direction Berlin. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Alexandra.
Alors il y a comme un souci avec le modèle allemand. Cette semaine, vos sages, c'est-à-dire les économistes qui conseillent le gouvernement, ont remis leur rapport et on retient ce gros coup de frein sur leurs prévisions de croissance. Que se passe-t-il, Ludovic ?
C'est une économie très tournée vers l'export et donc très dépendante du climat mondial. Les entreprises allemandes vont souffrir, préviennent les experts. Les cinq sages font la liste. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, la perspective du Brexit, la crainte d'une nouvelle crise de l'euro, l'Italie qui inquiète. Le tableau est si sombre, Alexandra, qu'ils ont infligé quasiment un point de croissance en moins pour cette année, de 2,3 à 1,6 et pas plus de 1,5% pour l'an prochain. La prévision précédente était de 2,5%. calcul. Et puis l'autre défi pour l'économie allemande, c'est encore et toujours ce problème démographique. Une population vieillissante, plus assez de personnel pour faire avancer les chantiers, tourner les usines ou les commerces. La croissance est freinée à cause d'une vaste pénurie de main-d'œuvre hautement qualifiée, en particulier dans le secteur de la construction et dans le numérique. Et ça n'est pas prêt de s'arranger. 2,5 millions de personnes vont quitter le marché du travail ces 6 prochaines années. Ces sages invitent le gouvernement à prendre des mesures urgentes. Par exemple, Alexandra, permettre aux personnes à temps partiel d'augmenter leur temps de travail, favoriser encore plus l'emploi des femmes, assouplir les règles de départ à la retraite, et puis le recours durable à une immigration qualifiée. Je cite ces experts, c'est indispensable pour garantir la prospérité de l'Allemagne.
C'est intéressant ça, Ludovic. Et comment a réagi le gouvernement allemand?
Si l'on écoute Peter Altmaier, le ministre de l'économie, les voyants sont au vert, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il reconnaît, c'est vrai, l'incertitude de l'ordre économique mondial et donc lui aussi abaisse ses prévisions de croissance sans aller sous les 1,8 points pour cette année et l'an prochain. Pour lui, alles gut, tout va bien. Le taux de chômage est au plus bas depuis la réunification. Il est passé sous les 5%. L'économie entrera en 2019 dans sa 10e année consécutive.
Christian, merci Ludovic Piétenu. Christian Chamagnu, pourquoi est-ce que vous murmuriez?
Parce que les sages se trompent complètement. Enfin oui, les problèmes démographiques sont là, mais surtout il y a trop d'épargne dans ce pays. Il y a trop d'épargne en Allemagne. L'équivalent de 8% du PIB, c'est vraiment trop. C'est
alors, ça le problème. On fera un petit débat sur le problème allemand bientôt. Ludovic Piétenu, en direct avec nous depuis Berlin. Merci à vous. Merci à Christian Chavagneux, à Emmanuel Lechypre. À venir dans la prochaine demi-heure, Alain Roumillac, le président de Manpower en France, l'invité du Mag'Éco. Mais d'abord, sur ce dossier de travail, une autre façon de se projeter dans l'avenir. Que va-t-il se passer dans ma vie au boulot avec l'arrivée de l'intelligence artificielle?
Là, on est devant l'ordinateur. L'interface de Doctrine, comment ça se présente? C'est assez épuré.
Alors, on a une barre de recherche tout en haut, avec sur la gauche des possibilités de filtre par thématique, par domaine du droit. Recherche plainte avec constitution de partie civile.
Il y a beaucoup de résultats, non?
Et en effet, on a plus de 500 résultats.
Et à gauche, on peut affiner là dans la petite colonne, cours d'appel, cours de cassation, par domaine du droit, social, commercial. Donc là, vous cochez ce qui vous intéresse et hop, et ça filtre.
Je m'appelle Nicolas Bustamante, je suis le président et le cofondateur de Doctrine, qui est le Google du droit. Mais auparavant, vous avez des structures, prenons l'exemple d'un cabinet d'avocats qui employait plusieurs, parfois des dizaines de stagiaires et qui avaient pour objectif de rechercher de l'information juridique, la compiler et enfin la comprendre. Et nous, avec notre intelligence artificielle, on vient automatiser cette recherche. C'est que ça devient comme sur Google.
On tape des mots-clés.
Vous tapez des mots-clés, vous appuyez sur Entrée et là, l'intelligence artificielle de Doctrine.fr va vous sortir l'information la plus pertinente. Et donc là, vous passez une heure, vous allez peut-être passer 10 minutes. Donc c'est un gain de temps colossal.
Voilà, c'est l'exemple de ce que peut faire l'intelligence artificielle dans un cabinet d'avocats, une machine qui simule le raisonnement et même l'apprentissage des humains. Mais alors, qu'est-ce qui va arriver à tous ces stagiaires qui cherchaient et analysaient la jurisprudence? On a bien compris que l'IA aura un impact sur la manière dont nous travaillons tous. Quel sera le résultat? Des gains de productivité? Ben, ça a l'air sûr. Mais pour les travailleurs, des risques, des opportunités? Ce matin, incursion dans notre futur nouveau monde avec le reporter du Mag'Éco, Louis-Valentin Lopez, toujours en compagnie du fondateur de cette start-up juridico-numérique.
Le digital et les outils du numérique vont apporter des gains de productivité colossaux pour ces structures, mais surtout ça invite à redéfinir le fonctionnement même de ces structures. Si on prend l'exemple d'un cabinet d'avocats, qui est souvent une structure pyramidale, et bien ces structures pyramidales, avec l'avènement du digital qui s'infiltre un peu dans tous les pans de l'organisation, bien, ils sont invités à redéfinir qu'est-ce qu'une organisation, qu'est-ce qu'un cabinet d'avocats, comment on facture. Auparavant, les cabinets d'avocats facturaient souvent à l'heure. Maintenant, il y a de plus en plus de modèles qui facturent en fait en forfait, et ça, c'est une transformation de modèle qui est induite souvent par le digital, mais qui est bien plus profonde que la révolution digitale. C'est vraiment la révolution de l'organisation en elle-même. C'est juste que le déclencheur a été le digital. Mais ce qui est le plus important, c'est la transformation de cette organisation et pas forcément les outils digitaux.
L'intelligence artificielle qui s'invite dans l'entreprise, mais aussi avant, au stade du recrutement.
Éric Malenfer préside le groupe d'ingénierie J'expertise.
On est sur un métier qui est très très en tension puisque nous travaillons beaucoup sur le Grand Paris. Donc il y a vraiment une tension, si vous voulez, sur les embauches à ce niveau-là. Il faut donc détecter des profils, quelquefois assez originaux, qu'on n'imagine pas avoir directement dans nos filières. L'intelligence artificielle, les robots qui peuvent exister pour pouvoir aller détecter des talents dans des métiers connexes sur les réseaux, gagne énormément de temps à nos recruteurs.
Donc on soulage les services RH, on les prie pas de plier bagages.
Loin de là, en fait, ce qu'on veut surtout, c'est qu'ils aient de la valeur ajoutée. Il y a plein de tâches qui sont des tâches sans valeur ajoutée, d'ailleurs, pour les collaborateurs, mais qui sont des tâches indispensables, qui sont des tâches de collecte d'informations, qui permettent de veiller à avoir des informations à jour. Alors ça peut concerner les mutuelles, ça peut concerner des données personnelles devant rentrer dans le cadre de la connaissance que nous devons avoir des collaborateurs. Une chose essentielle, ça reste la relation humaine. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous serrez la main le matin à vos collaborateurs, c'est quand même le meilleur moyen de prendre la température. Et ça, il n'y a pas un robot qui est capable de vous le transmettre.
Hey Snips.
Les emplois qui impliquent des tâches répétitives seraient donc sur la sellette.
Fais-moi un café.
Ok.
La start-up Snips, elle a développé un assistant vocal.
Je vous fais un café.
Il sait déjà faire du café, mais va-t-il bientôt nous remplacer? On a posé la question au fondateur de cette start-up, Randindi. Son but, c'est de détruire Alexa, l'intelligence artificielle d'Amazon.
Chaque entreprise, dans son propre métier, peut utiliser cet outil pour automatiser toute une partie des tâches que les gens auraient fait au quotidien.
Par exemple,
on se sert déjà énormément d'intelligence artificielle pour filtrer les messages auxquels on veut répondre. Dans la relation client, l'intelligence artificielle est utilisée pour pré-remplir ou même parfois répondre automatiquement à des requêtes que les gens pourraient faire.
Est-ce qu'il va y avoir un transvasement, un basculement de ces métiers ou est-ce que ces métiers vont disparaître ?
Déjà, soyons clairs sur une chose. L'intelligence artificielle, comme on la voit dans les films, c'est-à-dire une intelligence humaine artificielle, n'existera jamais. Les intelligences artificielles auront beau avoir un QI de 10 trillions, leur intelligence émotionnelle sera zéro. Donc les intelligences artificielles seront toujours cantonnées à automatiser les tâches logiques et machinales et répétitives que les humains ont l'habitude de faire.
Les tâches logiques, machinales, répétitives qui constituent quand même une certaine proportion du monde du travail aujourd'hui.
Oui, l'intelligence logique est absolument nécessaire dans la quasi-totalité des métiers. Je pense que les métiers du futur seront beaucoup plus axés sur les questions d'intelligence émotionnelle que sur les questions d'intelligence logique, parce qu'on aura appris à collaborer avec les machines, finalement à déléguer aux machines les tâches logiques et se concentrer sur les tâches émotionnelles.
Bon, l'intelligence artificielle, ça reste un peu flou, pas vraiment de chiffres, mais il commence à y avoir des études. Cette étude tient par exemple, commandée par le gouvernement à France Stratégie, organisme public. Salima Benhamou y a participé.
Aujourd'hui, personne ne peut connaître le nombre d'emplois qui est susceptible d'être détruit par de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, le scénario d'une substitution totale entre le travail et l'intelligence artificielle ne repose d'ailleurs sur aucune hypothèse crédible, voire même de résultats scientifiques objectifs.
Il y a aussi certains défenseurs de l'intelligence artificielle qui disent que, de toute façon, les emplois qui seront détruits ou supprimés par l'intelligence artificielle se verront substituer d'autres emplois.
Oui, l'intelligence va créer des nouveaux emplois. Par exemple, dans le secteur des transports, on peut imaginer des nouveaux emplois qui sont liés à la supervision des flottes de véhicules pour assurer aussi la relation client, l'accueil et la sécurité des véhicules. Mais les métiers qui seront... je dirais sauver entre guillemets, ce sont tous les métiers qui tirent leur force de leur activité basée sur des compétences transversales, sur des compétences qui sont fondamentalement sociales. Si on prend l'exemple des aides-soignants, les aides-soignants, ce sont des métiers qui sont peu qualifiés. Mais demain, dans le secteur de la santé, les besoins sociétaux, les tendances démographiques font qu'on aura besoin d'aides-soignants.
Alors que trader, on pourrait se dire, c'est un métier très qualifié. Or, les décisions prises par les traders pourraient très bien être prise par une intelligence artificielle.
Ce qui est important, c'est l'intelligence artificielle, elle est performante sur des tâches qui peuvent être complexes, qui sont simples, mais qui sont aussi complexes, mais à partir du moment où elles sont basées sur des règles prédéterminées.
Donc cette étude, vous avez présenté les résultats au ministère du Travail et au secrétariat d'État chargé du numérique. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ?
On a fait des propositions. Une proposition qui nous a semblé vraiment importante, c'est la formation des personnes pour que leurs compétences soient complémentaires à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans leur environnement professionnel.
On commence déjà à imaginer les métiers complémentaires à l'intelligence artificielle, en fait. On commence déjà à se projeter.
Et pour ça, il faut anticiper les besoins des nouvelles compétences. Et pour cela, il faut accompagner les organisations, publiques ou privées, en lançant un travail prospectif pour identifier, en fait, quelles seraient les tâches qui sont hautement automatisable par rapport à d'autres qui ne le seraient pas. En somme, l'intelligence artificielle n'est pas une technologie autonome. Elle ne pense pas par elle-même, mais à partir de règles qu'on lui fixe et les informations qu'on lui donne. Donc en fait, il serait plus approprié de parler d'apprentissage artificiel que d'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle va bouleverser l'organisation du travail.
Ok.
C'était le reportage de Louis-Valentin Lopez.
Je vous fais un café.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10.
Ok.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Pour continuer à parler de l'emploi, je salue l'invité du Mag'Éco, le président de Manpower en France. Bonjour Alain Roumillac.
Bonjour.
Spécialiste de l'intérim, du recrutement, mais aussi du placement. On entend dans ce reportage sur l'intelligence artificielle qu'elle va transformer, qu'elle transforme déjà la manière dont on recrute les gens. C'est ce qui se passe chez vous ?
Alors on commence à avoir pas mal de clients et qui commencent à se poser la question de dire les gens que je recrute aujourd'hui, comment est-ce qu'ils seront évolutifs pour le futur en fonction de toutes ces changements qui se profilent. Oui, ça commence à être une préoccupation.
Et il y a une prise de conscience. La spécialiste, l'économiste dit qu'il faut former les salariés. Est-ce que vous, les chefs d'entreprise que vous rencontrez, vous disent qu'ils commencent à former leurs salariés pour les préparer à ce que leur travail se transforme?
Alors c'est déjà un énorme enjeu aujourd'hui. Et on a une difficulté à trouver les gens qui ont les bonnes compétences telles qu'elles sont demandées par l'économie. Et moi, j'anticipe que demain, ça sera encore plus important. Donc, je pense que tous les plans qui sont lancés et qui veulent essayer de favoriser la formation des gens vont dans ce sens-là. Oui, beaucoup de métiers vont être transformés dans les prochaines années.
Lesquels, vous êtes d'accord, ceux qui seront automatisables ?
Alors, ce sont ceux qui sont toutes les tâches répétitives, fastidieuses.
Par exemple.
Mais ça pose un sujet. J'entendais là, on disait, ben oui, mais les stagiaires qui faisaient des recherches. Sauf que souvent, c'était les premiers jobs dans l'entreprise. Et on commençait à acquérir un certain nombre de savoir-faire, puis ensuite on montait en compétences. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on dit, ben non, mais ceux qui ont peu de valeur, donc ceux qui étaient au début de la carrière, on n'a plus besoin, mais on va pas commencer à faire rentrer les gens au milieu de carrière. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on les amène au niveau d'expertise? Donc ce sont des challenges qui vont pas être obligatoirement simples à gérer.
Alain Roumillac, le marché du travail aujourd'hui, combien il y a d'offres d'emploi en ce moment chez Manpower ?
Aujourd'hui, d'abord, on a à peu près tous les jours 120 000 intérimaires chez nos clients. Et on va recruter aujourd'hui à peu près, enfin cette année, à peu près 30 000 collaborateurs en CDI pour le compte de nos clients.
Est-ce que ces embauches, elles sont en accélération ? On entend qu'il y a une décélération sur l'Europe. Est-ce que la France décélère aussi ?
Alors, il y a une décélération sur l'intérim. Et qui est en ligne d'ailleurs avec ce qui a été annoncé hier, une baisse de la production industrielle. Donc l'intérim continue à croître sur le domaine du bâtiment et travaux publics et du tertiaire. Mais par contre, sur le mois de septembre, une décroissance de 5% dans le domaine de l'industrie. Et par contre, sur le recrutement en CDI, ça reste extrêmement dynamique. En particulier sur les cadres, et puis aussi parce que les entreprises, face aux enjeux qu'on a déjà évoqués, qui est de trouver les bonnes compétences, aujourd'hui, et elles se rendent compte que c'est compliqué, donc il faut sans doute aussi aller vers un peu plus de personnel en CDI, parce qu'elles ont besoin de fidéliser des gens sur des compétences toujours de plus en plus pointues. Donc un marché du recrutement, que nous appelons recrutement permanent, très dynamique.
Qu'est-ce que ça veut dire très dynamique ? Ça veut dire qu'on embauche plus en CDI aujourd'hui qu'il y a 2 ans, 3 ans par exemple ?
Alors, on recrute plus en CDI aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans. Et en particulier, nous on le voit aussi sur le recrutement de nos intérimaires, qui a beaucoup augmenté, parce que les entreprises, lorsqu'elles trouvent la bonne compétence, elles ont bien compris qu'il fallait qu'elles la fidélisent et qu'elles leur proposent des CDI.
Donc face à la pénurie de talents, les entreprises commencent à changer de comportement et elles proposent plus de CDI, elles se montrent plus généreuses.
Absolument, mais c'est aussi notre cas. Nous, on a sans doute lancé il y a 3 ans le CDI intérimaire. On en a signé 13 000. C'est aussi un de nos enjeux de fidéliser nos intérimaires, de leur donner une capacité de mieux s'intégrer sur le marché du travail et donc d'une certaine façon de nous être plus fidèles. Et en parallèle, nous, on investit beaucoup plus sur leur formation et sur leurs compétences.
Alors le CDI intérimaire, il faut expliquer. C'est-à-dire on est intérimaire, on va travailler pour plusieurs entreprises, mais on n'est pas toujours en mission. On a un contrat à durée indéterminée avec vous.
On a un contrat à durée indéterminée avec nous. On va en mission dans les entreprises et lorsque l'on est entre deux missions, c'est Manpower qui vous rémunère.
Une dernière question quand même, Alain Roumillac, sur le marché du travail. Est-ce que le chômage recule de plus en plus lentement de ce que vous constatez ?
Aujourd'hui, il recule enfin, je sais pas si c'est plus en plus lentement, mais c'est très compliqué de le faire baisser. Parce que on se retrouve avec des gens qui sont éloignés du marché de l'emploi. Nous, on a des difficultés d'ailleurs, mais que ce soit pour nos recrutements en intérim ou en CDI, à trouver les bonnes compétences. Et quand je dis les compétences, c'est autant les sujets de savoir-être que de savoir-faire. On a beaucoup de clients aujourd'hui qui ont compris qu'en termes de savoir-faire, sur la technicité du métier, ils ne trouveraient pas. Et ils ont besoin de trouver des gens qui ont le savoir-être, donc qui savent s'intégrer dans des équipes, et ensuite ils vont les former. Et on se rend compte qu'on a une partie de la population qui est relativement éloignée et qu'il faut vraiment accompagner et former sur ces sujets-là pour ensuite être capable de les former sur le métier dans l'entreprise.
Mais ça ne peut pas être la seule raison, il y a quand même 6 millions de demandeurs d'emploi, la seule raison ça n'est pas le savoir-être.
C'est pas le savoir-être. D'abord il y a des disparités extrêmement importantes, bassin d'emploi par bassin d'emploi. Bah, j'étais récemment en Vendée, aujourd'hui en Vendée,
on est au plein emploi.
Vous êtes quasiment au plein emploi, et puis vous avez d'autres régions où vous avez 15-20% de chômage, et donc une difficulté de mobilité. Donc sans doute que aider à la mobilité géographique est un des sujets. Et puis les entreprises mutent, les compétences sont de plus en plus pointues, et on le voit quand je regardais les statistiques aussi sur le travail intérimaire, là il y a une croissance sur l'intérim cadre et des professions intermédiaires, et une décroissance très significative sur les ouvriers non qualifiés. Donc le besoin de qualification de l'économie, lié aussi à toute cette transformation digitale, nécessite des compétences qui sont de plus en plus pointues. Et donc, il faut accompagner l'ensemble de ces mutations.
Le taux de chômage à 7% à la fin du quinquennat, vous croyez que c'est possible, vous ?
Je pense que c'est un vrai challenge.
Je pense que c'est un euphémisme, alors. Alain Roumillac, l'actualité, c'est la négociation sur l'assurance chômage, et ça vous concerne. Est-ce qu'il y a des abus sur les contrats courts, les CDD, les missions d'intérim ?
Sans doute. Et en particulier sur le sujet dit de la permittence, où vous avez des gens toujours les mêmes, qui travaillent pour la même entreprise et donc qui alternent travail dans l'entreprise et période de chômage.
Vous le connaissez ça ? Il y a des patrons qui vous disent, qui vous demandent toujours les mêmes personnes ?
Non, mais je pense que c'est peu le cas, parce que c'est plutôt, et d'ailleurs les secteurs qui utilisent ces domaines-là utilisent assez peu l'intérim. Et nous, on travaille beaucoup avec l'industrie, avec le bâtiment, les travaux publics, c'est plutôt sur des missions d'une certaine durée. Donc oui, il y en a quelques-uns, mais c'est globalement plus rare. Donc sans doute qu'il y a des abus sur ces sujets. Et puis nous, ce qu'on dit dans tous les échanges, on dit bon, mais par rapport à la solution qui va être mise en place, il faut faire attention, un, qu'on crée pas une usine à gaz.
Alors la solution, c'est le bonus-malus. Le président de la République l'a encore dit hier, hein, sans doute dès le début de l'année prochaine. Il faut dissuader les entreprises qui abusent et mettre un malus sur les cotisations patronales, l'assurance chômage, et puis un bonus aux autres, celles qui sont vertueuses.
Intellectuellement très intéressant, la mise en œuvre, si on retombe dans un système aussi complexe que sur le système de la pénibilité et sur laquelle il a fallu 3 ou 4 ans pour réussir à trouver une solution, il faut être très prudent sur cet aspect-là. Et puis il faut faire attention aussi, nous on voit arriver, on intègre sur le marché du travail justement les gens qui ont de grandes difficultés à s'y insérer. Donc si on nous dit, sur les missions les plus courtes, qui sont celles qu'on va utiliser pour ces gens-là, on va être surtaxé, on va avoir potentiellement un souci pour intégrer un certain nombre de personnes sur le marché du travail. Donc, dans les discussions que nous on a, par exemple sur nos métiers, on peut dire si vous voulez, on peut faire potentiellement plus de CDI intérimaires. On peut aussi éventuellement avoir un taux d'emploi de nos intérimaires beaucoup plus important, et donc ils iront moins à l'assurance chômage. Mais vraisemblablement, ça nous amènera à travailler avec une population moins importante, et donc on fera moins d'insertion. Donc comment est-ce qu'on trouve les justes équilibres ? Il y a sans doute, et il faut trouver un équilibre. Moi, je suis pas contre le fait de dire il faut ajuster le système, parce qu'il peut potentiellement il a un certain nombre de dérives. Ouais, mais on est dans un environnement qui est complexe,
mais
ça va être une négociation.
Mais le bonus malus, non.
Moi, je pense que on va arriver à une usine à gaz.
L'autre dossier, ce sont les règles qui permettent de cumuler les allocations et un petit emploi, et qui décourageraient de revenir vers l'emploi, dit le gouvernement. Il faut les revoir.
On a tous des cas où on a des gens qui, soit au bout d'un certain temps, nous disent j'ai suffisamment de droits, j'arrête de travailler pendant un certain temps. Bon voilà, maintenant c'est pas.
On refuse. Est-ce que dans vos agences on refuse des CDI ?
Alors, on refuse des CDI et un certain nombre de fois, on nous refuse aussi potentiellement des missions. Mais c'est pas tout le monde. Donc, il faut aussi qu'on fasse attention que pour quelques abus, on crée pas un système qui soit pernicieux. Parce qu'il faut motiver les gens à pouvoir s'insérer par le travail, parce que je pense que c'est comme ça aussi qu'ils se réalisent et qu'ils ont la capacité de se développer.
Mais revoir les règles.
Et potentiellement revoir un certain nombre de règles.
Alain Roumillac, le président de Manpower France. Merci d'avoir été sur France
Inter.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Question de Françoise qui travaille dans une entreprise de transport. Avec le prélèvement à la source qui s'annonce, Françoise aimerait que le 13e mois versé en fin d'année soit mensualisé. Est-ce que son employeur peut le lui refuser?
Ça dépend, Françoise, de ce que dit votre convention collective ou l'accord d'entreprise. En général, le 13e mois, qui correspond à un mois de salaire, est versé en fin d'année ou en deux fois, en juin et en décembre. Certains salariés peuvent même choisir entre ces propositions. Mensualiser le 13e mois peut être une décision assez simple pour une direction, mais celles qui ont contractualisé le versement en une fois devront passer par un nouvel accord avec les syndicats. Et les syndicats ne sont pas tous partants pour disperser ce 13e mois façon puzzle. Certains expliquent que ce coup de pouce n'en est pas un, puisque au bout du bout, le salaire annuel ne change pas. Mais comme ce complément se verra chaque mois sur la feuille de paye, il pourrait inciter les employeurs à décliner les demandes d'augmentation de salaire. Certains élus du personnel veulent aussi le maintien de cette prime en fin d'année pour ne pas bousculer les habitudes de ceux qui comptent dessus pour faire leur cadeau de Noël. Tout va être question, Françoise, d'effets psychologiques et de gestion de son budget. Les entreprises comme BNP Paribas, qui font déjà le choix de lisser le 13e mois sur l'année, considèrent que c'est une façon d'atténuer le choc du prélèvement à la source qui entrera en vigueur après les fêtes. Ce qui file d'un côté vers le fisc vous revient plus ou moins par le 13e mois.
Du coup, les salariés comme Françoise vont-ils faire pression pour la mensualisation du 13e mois?
Encore faut-il qu'ils bénéficient de cette prime. Beaucoup d'entreprises la prévoient, mais elle n'a rien d'obligatoire. Le Code du travail est assez peu loquace sur le sujet. Ses modalités d'application sont même parfois assez inégalitaires. L'attribution du 13e mois peut par exemple être conditionnée à l'ancienneté ou à la présence des salariés. Tant pis si vous attrapez la grippe et que vous êtes en arrêt maladie, vos journées d'absence seront décomptées de la prime. Elle n'est pas non plus toujours calculée au prorata temporis. Malheur à celui ou celle qui part de son plein gré de l'entreprise un 15 décembre. Dans ce cas-là, le 13e mois lui filera sous le nez. Enfin, dans une même entreprise, certains touchent cette prime, d'autres non. C'est le cas des ouvriers de Cooper, une société de matériel de sécurité en Auvergne. Ils ont poursuivi leur direction en justice, mais la Cour de cassation leur a donné tort. Le mois dernier, elle a estimé que seuls les cadres pouvaient toucher le 13e mois au motif que la charge de travail n'est pas la même pour un cadre que pour un non-cadre. Françoise, je vous laisse imaginer l'ambiance dans l'entreprise lorsque le prélèvement à la source sera mis en place.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.